BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. On va beaucoup parler de travail hybride aujourd'hui. Évidemment, de quoi voulez-vous qu'on parle d'autre? On sera dans un instant avec le CEO de Microsoft. Microsoft, une entreprise évidemment aux avant-postes et aux avant-gardes de toute l'organisation du travail en France et dans le monde entier. Et puis, est-ce que c'est la fin du bureau? Pas vraiment, selon Sarah Proust qui a écrit un ouvrage sur la question. Elle sera avec nous tout à l'heure. Et puis, on va parler du burn-out. Faire un burn-out pendant une heure, ça n'existe pas. Il y a des petits signaux faibles à bien identifier si vous allez mal au travail et ailleurs. On en parlera dans un instant avec Astrid Le Fur, spécialiste de la question. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est Jean-Christophe Pitié. Bonjour, Chief Operating Officer de Microsoft France. Microsoft France, géant de l'informatique, 150 000 salariés dans le monde, dont 60% aux États-Unis, 1890 à peu près en France. Qui ne connaît pas Teams, Excel, Word, le quotidien de quasiment tous les salariés de bureau? On est quasiment devenu Microsoft dépendant. Avant de parler ressources humaines, qui est notre sujet ici dans Happy Boulot, un mot de l'outil. Aujourd'hui, on fait Teams, c'est devenu une marque. Est-ce que vous avez gagné la bataille de la conf call?
Bonjour Laure, déjà. Merci de nous recevoir. Écoutez, on a un certain succès, oui, puisqu'on a près de 145 millions d'utilisateurs quotidiens de Teams. On a démarré avant la pandémie, on avait 20 millions d'utilisateurs, on est passé à 145, près de 250 millions mensuels d'utilisateurs. Donc effectivement, ça répond à une vraie demande des entreprises, des salariés, de pouvoir collaborer à distance. Il y a la visioconférence, mais il n'y a pas que ça. Comme on le sait, dans Teams, vous pouvez aussi travailler en mode asynchrone et sur des documents avec vous.
Il y a le succès de Teams avec tous les problèmes que ça met aussi. On n'en peut plus aussi de Teams parce qu'on en fait trop. La réunionite est revenue à travers l'outil, franchement, plus qu'avant la crise. Est-ce que vous êtes obligé aussi de former vos utilisateurs à la bonne pratique et aussi au fait d'arrêter de temps en temps un peu avec Teams?
Non, c'est une très bonne question. C'est un sujet qu'on voit souvent, c'est-à-dire comment... quelles sont les bonnes pratiques en fait autour de l'utilisation de Teams et du travail à distance. Et d'ailleurs chez Microsoft, nous-mêmes, on a mis en place des bonnes pratiques qu'on appelle les 4-4. Pour vous donner quelques exemples très concrets, ouais. C'est par exemple, on s'assure qu'il y a une pause déjeuner. On n'enchaîne pas des réunions toute la journée. Donc on empêche les collaborateurs de prendre des réunions entre midi et deux. On a raccourci les réunions. Au lieu qu'elles durent une heure, elles durent 45 minutes pour que vous ayez des pauses. Donc ce sont ces règles des 4-4 qu'on a mis en place chez Microsoft, qu'on partage aussi avec les entreprises pour les aider à éviter cette fatigue cognitive qu'on a tous en fin de journée.
Vous obligez les gens à fermer l'outil et à manger?
On ne les oblige pas, mais on recommande fortement. Et en tant qu'équipe de direction, on ne crée pas, on n'organise pas de rendez-vous. C'est vraiment l'intention, entre midi et deux, par exemple, pour que les gens aient cette pause quand ils sont en mode à distance.
Microsoft, c'est une sorte de laboratoire de la vie de bureau, souvent avec des décisions assez avant-gardistes sur l'organisation du travail, sur la gestion des minorités. Souvent, on utilise Microsoft comme exemple d'avant-garde. Le travail hybride, c'était déjà quelque chose que vous faisiez avant la crise sanitaire. Il y avait déjà cette vision un peu, on travaille comme on veut avec des objectifs. Aujourd'hui, avec le recul, vous êtes toujours dans cette même idée de chacun fait ce qu'il veut, vous êtes revenu dessus, on en est où?
Alors, on croit beaucoup effectivement au travail hybride chez Microsoft. C'est une pratique qu'on avait déjà bien avant la pandémie. Les collaborateurs en France, à l'international, déjà travaillaient plusieurs jours par mois en mode à distance. Avec la pandémie, on est passé, comme tout le monde, à 100%. Et maintenant, notre vision du futur, c'est vraiment ce monde hybride. Et on le voit... On essaye de répondre à un paradoxe, en fait, des collaborateurs. Les collaborateurs nous demandent beaucoup plus de flexibilité. Et on le voit en France, on a fait une étude à l'international, pardon, surtout les 150 000 employés. Ouais. On le voit, 72% des collaborateurs ont dit « je veux plus de flexibilité dans la gestion de ma vie professionnelle et privée ». Mais en même temps, 67%, le même nombre quasiment, nous a dit « je veux aussi plus de liens sociaux, continuer à avoir mes collègues ». Donc on a ce paradoxe un petit peu à résoudre. Et donc pour nous, le travail hybride, c'est vraiment ce futur. C'est comme ça qu'on va y répondre.
Hybride, mais ça veut dire quand je viens au bureau... Je fais pas ce que je pourrais faire chez moi. Il faut que ça soit des activités différentes.
C'est exactement ce qu'on essaye de redéfinir avec nos équipes et les collaborateurs. C'est si je viens au bureau pour faire quoi? Si c'est pour envoyer des emails comme dans le monde avant à la personne qui est assise à côté de moi, c'est pas le bon usage, surtout si j'ai passé 2 heures dans les transports avant, etc. Donc c'est pas le bon usage. Donc on a ces pratiques sur lesquelles on réfléchit. Si je vais au bureau, c'est pour avoir du lien social, c'est pour faire du brainstorming, c'est pour avoir parfois un petit peu de fun, la machine à café,
mais
échanger des informations.
Mais fermer les outils, c'est-à-dire que quand je viens au bureau, je ferme mon ordi, j'utilise plus, on supprime les téléphones, comme on force les gens à faire des pauses déj, on va les forcer à se parler.
Je n'irai pas jusque là, mais je pense que ce que vous dites, c'est que je pense qu'il n'y a pas de solution unique. C'est qu'on voit chaque personne, je reviens au point, c'est ce qu'on a aussi appris avec cette pandémie et cette expérimentation à l'échelle réelle. On a découvert que chaque personne avait des besoins différents. Et je reviens sur le paradoxe, il y a autant de personnes chez Microsoft qui nous disent « je veux venir au bureau pour me concentrer et être un petit peu au calme » qu'autant qui nous disent « je veux être chez moi pour me concentrer ». Donc il n'y a pas de solution unique.
Et comment vous répondez justement à ce cas par cas?
Nous, on répond à ce cas par
cas. Moi, j'ai beaucoup de DRH qui me disent « j'en peux plus du cas par cas, je ne peux pas gérer, je ne peux pas faire chacun avec ses enfants, là où il habite, etc. Il faut quand même des règles. Vous entendez ça?
J'entends bien, on a les mêmes discussions d'ailleurs et les mêmes débats en interne. D'abord, je pense qu'il y a un côté, on apprend tous ensemble. Hein. C'est un moment d'expérimentation, il faut rester très humble, on apprend tous. Comment on répond cas par cas? Nous, on a mis en place un accord de télétravail qui permet aux collaborateurs d'avoir jusqu'à 3 jours, sans accord managérial, d'avoir 3 jours de télétravail à distance. Par contre, s'ils veulent plus, ça peut aller jusqu'à 4 ou 5, il faut l'accord du manager. Et sur les 2 jours restants, c'est là où c'est plutôt par équipe, par type de métier, on met en place, on va définir ensemble des règles. Moi, par exemple, prendre l'exemple de la division marketing, on a dit, par exemple, le mardi, c'est la journée un petit peu repère où tout le monde doit venir pour se retrouver, faire les réunions d'équipe, etc. Mais chaque division a choisi un petit peu son approche en fonction de ses besoins.
Donc, je suis quand même assez libre dans mon planning. Avec jusqu'à 3 jours sans accord de manager, j'ai quand même le temps de m'organiser.
Et après, pour le reste, on s'organise ensemble parce qu'effectivement, ça peut pas être complètement à la carte, sinon on se croise jamais. D'ailleurs, les collaborateurs nous disent, je veux venir quand il y a une partie des collaborateurs nous disent, je veux venir au bureau quand il y aura les autres équipes, je veux pas me retrouver tout seul à faire des conférences call toute la journée.
Ce que je vois, c'est que le mardi, c'est devenu le jour de la réunion au bureau quand même.
Vous avez entendu ça d'autres organisations?
Clairement, hein, c'est pas le lundi, c'est pas le vendredi, c'est pas le mercredi, reste le mardi et le jeudi. Bon, voilà. Soit l'un, soit l'autre. Hein.
Ça dépend des équipes chez nous. Mais oui, pour moi, j'ai pris le mardi.
Voilà, vous voyez, tout le monde prend le mardi. Vous avez fait là une sorte de réunion avec pas mal d'entreprises, 150 000 dirigeants, Microsoft Init. C'est quoi les nouveautés? Qu'est-ce qu'il y a encore de nouveau qu'on peut construire dans le monde du bureau?
Alors effectivement, si on parle de futur, surtout du travail, hein, c'est le métaverse ou le métavers. Ouais. Je ne sais pas d'ailleurs si on dit en anglais ou en français, on va dire métaverse d'entreprise. Ouais. Donc c'est vraiment la convergence du monde numérique avec le monde réel. Et on le voit, vous aurez la possibilité demain d'être dans une réunion virtuelle. Vous choisissez votre lieu de réunion virtuelle. Par contre, Brandon, vous pourrez voir les autres personnes, pas que leurs vignettes. Vous pourrez les voir sous forme d'hologramme ou d'avatar. Donc c'est vraiment ce monde virtuel pour le bureau. Ça va s'appliquer aussi à l'entreprise, aux usines, par exemple avec des jumeaux numériques, où vous allez pouvoir travailler ensemble sur des pièces numériques comme si vous étiez dans une usine. Donc on parle de jumeaux numériques.
Mais c'est le futur proche ou c'est le futur?
C'est le futur très proche, qui arrive l'an prochain. On a annoncé, vous allez avoir avec Mesh, par exemple, ce qu'on appelle notre technologie Mesh, vous aurez la possibilité de voir des avatars dans Teams, d'être sous forme d'avatar. Donc ça, ce concept vient un petit peu du jeu vidéo. Vous savez, vous vous projetez dans des jeux vidéo, vous êtes dans des avatars, mais là vous aurez la possibilité de le faire dans le monde de l'entreprise. Dès l'année prochaine.
Vous croyez que les salariés sont prêts?
Écoutez, je pense que c'est comme tout, on va apprendre, on va voir, il y aura une demande, il y a sans doute des personnes qui vont vouloir rester en mode comme aujourd'hui avec leur caméra, il y en a certains aujourd'hui qui mettent pas leur caméra, d'ailleurs on le voit,
il y en a d'autres qui mettent leur caméra. Il y a plus grand monde qui met sa caméra d'ailleurs.
Il y en a plus, on le voit, donc je pense que c'est des options, pour moi la technologie vous donnera des options, et après aux salariés, aux entreprises de choisir ce qui est le plus pertinent.
Merci beaucoup Jean-Christophe Pitié d'être venu nous voir dans Happy Boulot, le MAG, Chief Operating Officer de Microsoft France. On va parler de la fin du bureau, est-ce que c'est aussi la fin du collectif?
BFM Business, Happy Boulot, le mag, Better Together.
Et on va parler du bureau et de sa fin, ou peut-être de sa renaissance, avec Sarah Proust. Bonjour, fondatrice du cabinet de conseil Selkis et auteure du livre Télétravail, la fin du bureau. C'est édité par la fondation Jean Jaurès. On apparaît au plus pressé en 2020-2021. Allez hop, tout le monde prend son laptop et rentre chez soi. Désormais, il faut s'organiser correctement. Pour vous, en 2022, on va finir de massacrer le bureau ou il a encore une petite chance?
J'espère qu'il a une chance. En tout cas, je ne plaide pas du tout pour la fin du bureau. Le sujet qui m'intéresse, ou en tout cas que j'ai traité dans ce livre et que je traite avec les organisations que j'accompagne, c'est au fond, depuis 15 ans, on assiste à une fragmentation du lieu de travail, puisqu'on travaille depuis le métro, depuis son lieu de vacances, depuis chez soi. Donc au fond, la fragmentation du lieu de travail, ça préexiste à la crise. Et le paradoxe, c'est que pendant la crise, depuis 18 mois, on a travaillé de chez soi, donc ailleurs qu'au bureau. Donc la question que se posent les organisations et que je me pose et à laquelle j'essaie de répondre, c'est après 15 ans de fragmentation et 18 mois de reconcentration, à quoi va ressembler le bureau ? Moi, je plaide pour qu'il se transforme. Je pense qu'il ne doit pas répondre aux mêmes enjeux qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, je ne suis pas du tout pour sa fin, pour une raison, plusieurs, mais disons une en particulier. C'est que le bureau, c'est plutôt un lieu égalitaire entre les salariés. On y vient à peu près dans les mêmes conditions de travail. Bon, évidemment, un patron n'a pas tout à fait le même bureau qu'une secrétaire. Mais ceci dit, c'est plutôt un lieu commun et un lieu de relative égalité quand le télétravail, lui, est très inégalitaire. Au moins une raison de conserver le bureau, à mon sens.
Mais est-ce que vous avez l'impression d'en parler à l'instant avec le patron de Microsoft, que le bureau, ça va être juste une cafétéria géante, un endroit où on discute comme si on allait au café?
Alors si on ne le repense pas, il va tout à fait devenir cela. Puisque si on pense qu'en gros, le télétravail sera deux jours et demi par salarié, évidemment le risque, c'est que ça devienne un hangar un peu standardisé, dans lequel on ne vienne pas faire grand-chose. Et je pense que pour ça, les organisations, elles ont une responsabilité importante, c'est de faire vivre la portée symbolique de ce lieu-là.
Donc elles doivent organiser le lien social, mais presque les conversations, les échanges.
Alors, il ne faut pas formaliser l'informel. Je pense que ça serait une erreur.
Ça, c'est très dur, de ne pas formaliser l'informel tout en disant qu'il faut quand même que ça ait un cadre.
Absolument. C'est difficile, mais je crois qu'on est là entre la différence entre l'informel et la convivialité. On est là entre le collectif et l'informel. Donc, c'est des choses qu'on apprend à qualifier, d'abord, et avec lesquelles on apprend à vivre. Non, je pense, pour répondre à votre question, qu'aujourd'hui, une organisation, elle doit réfléchir à qu'est-ce qu'on vient faire ensemble dans ce lieu-là et ce à quoi on contribue ensemble. Ça nécessite de renforcer ce que j'appelle la portée symbolique des lieux, c'est-à-dire qu'un bureau, c'est pas seulement des tables, des chaises, des imprimantes et des plantes vertes, c'est un lieu dans lequel on coproduit ensemble. Donc qu'est-ce qu'on vient y faire ensemble et qu'est-ce que l'organisation propose en termes d'espace, en termes d'outils, en termes de pratiques managériales, mais aussi en termes de reformulation de ce qu'est la stratégie commune pour pouvoir faire ensemble les jours où on y est quelque chose qui nous dépasse et donc renforcer cette culture commune qui, à mon sens, est le pendant intéressant du bureau qui serait pas un hangar dans lequel on viendrait les uns les autres un peu hagard boire un café.
Mais vous croyez que toutes les entreprises arrivent à répondre à la question philosophique que vous posez, où elles disent, nous on bosse en fait?
En tout cas, elles se la posent. Donc je sais pas si on arrive les uns et les autres tous à y répondre, mais en tout cas, elles se la posent. Et elles se la posent parce que les salariés se la posent. Et les salariés se la posent parce qu'au fond, ce qu'on a constaté pendant le Covid, c'est que, en tout cas pendant les phases de confinement, c'est qu'on a tous réussi à travailler loin. Moi, j'ai interrogé beaucoup de salariés qui, par exemple, travaillent en ce qu'on appelle en full remote, donc complètement en télétravail depuis des années, et tous m'ont dit la même chose. Ils n'ont eu aucune distance par rapport à leur travail. Ils sont très engagés auprès de leurs collaborateurs, etc. Mais par contre, ils ont pris beaucoup de distance par rapport à leur organisation. Et ça, réussir à distinguer le travail de l'organisation pour laquelle on fait le travail, je pense que c'est aussi un enjeu des organisations, et elles sont très, très vigilantes à ce sujet-là parce qu'elles le constatent. Et elles constatent effectivement que plus on s'éloigne du lieu de travail, plus on risque de s'éloigner de la culture commune et de la culture d'organisation. Donc je suis absolument pour le télétravail, il a beaucoup d'avantages, mais il a aussi des conséquences et pour les salariés et pour les entreprises. Et donc cette question-là, qui peut paraître philosophique, c'est aussi une question concrète de tous les jours auxquelles les organisations cherchent à répondre.
Et pourtant, vous dites dans votre livre, il ne faut pas différencier les tâches entre le télétravail et le bureau. Il ne faut pas que ça soit complètement autre chose.
Alors, je dis que la vie de bureau et la vie de télétravail ne doivent pas être les mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire chez soi exactement ce que l'on fait au bureau. Je pense au contraire qu'on pourrait réfléchir, mais c'est une discussion que j'ai avec des salariés, on pourrait réfléchir à la distinction des tâches. Au fond, si on reste chez soi, est-ce qu'on doit faire exactement ce qu'on vient faire au bureau ? Je pense qu'on peut réfléchir au fait d'avoir chez soi une production plus individuelle et au bureau une coproduction. Je ne sais pas si ça correspond tout à fait à la journée de travail classique des salariés. En tout cas, c'est intéressant de se dire, en fonction des lieux, on ne fait pas tout à fait la même chose. Je pense que ça correspond à des missions et des organisations et que parfois ça ne correspond pas à cela. Donc on peut en tout cas réfléchir à la différence entre le lieu et la tâche que l'on fait.
Sur la question de l'un des premiers risques psychosociaux qui est l'isolement du salarié, est-ce que vous pensez que là, on a un peu résolu le problème, on est passé à autre chose aujourd'hui?
Pas du tout. Je pense qu'on est face à un double risque un peu ambivalent, c'est à la fois l'hyperconnexion et l'invisibilisation. Hyperconnexion parce qu'on voit que souvent il y a des salariés qui, pour montrer leur engagement, persistent à essayer d'avoir une amplitude horaire extrêmement importante et montrer beaucoup de productivité. Et on voit aussi une invisibilisation, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas à l'aise avec ces outils-là et qui ne savent pas exister professionnellement dans ces outils-là, et parfois avec des managers qui les dépassent ou en tout cas qui les contactent moins pour plein d'autres raisons. Donc je pense que ces deux risques excessifs hein, que sont l'invisibilisation et l'hyperconnexion, on n'est pas du tout au bout. Et ça, ça demande à ce que les managers, les cadres intermédiaires soient accompagnés, parce que ce n'est pas un changement de degré dans la relation managériale, c'est un changement de nature dans la relation de travail. Et donc, on doit les accompagner, on doit les former, ils doivent faire un travail aussi d'analyse de pratique professionnelle.
Comment vous trouvez les jeunes, ceux qui sont rentrés dans l'entreprise justement récemment, qui n'ont pas connu l'entreprise avant la crise? Est-ce qu'ils ont toujours cet attachement? Parce que vous disiez tout à l'heure, le télétravail, ça n'a rien changé vis-à-vis de l'attachement à son propre travail, mais ça a beaucoup eu d'impact sur le collectif. Vous trouvez qu'ils y arrivent à se dépatouiller là-dedans ou il y a des difficultés?
Alors, j'ai rencontré des jeunes en grande contradiction les uns avec les autres. Au fond, c'est pas une population homogène. Il y a un certain nombre de jeunes qui considèrent qu'aujourd'hui, le nombre de jours télétravaillés sera un critère de choix d'entreprise, surtout sur des jeunes diplômés, mais un critère de choix en disant, moi, j'ai pas envie d'aller au bureau. Et aussi, beaucoup de jeunes qui ont été d'abord les premiers à être mis au télétravail dans les organisations, alors qu'ils en ont probablement moins besoin de télétravail, parce que c'est aussi comme ça, par le mimétisme, par le fait de regarder les autres travailler, qu'on apprend un métier. Et donc, on sent à la fois beaucoup d'isolement chez certains qui disent, mais moi, j'ai besoin d'être au travail pour comprendre ce qu'on attend de moi, pour être formé, pour comprendre quel est mon métier. Et d'autres qui, au contraire, considèrent que la vie de bureau, c'est vraiment un vieux truc, c'est un vieux machin. Et donc, voilà. Donc, je pense que les organisations, elles sont face à cette difficulté d'avoir des jeunes qui arrivent sur le marché du travail avec des attentes différentes et qu'il va bien falloir à un moment trouver un moyen entre cette offre et cette demande différente de savoir ce lieu-là, à quoi il sert. On y vient moins qu'avant, mais qu'est-ce qu'on vient y faire quand on y est ensemble?
Merci beaucoup Sarah Proust, fondatrice du cabinet de conseil Selkis et auteure du livre Télétravail, la fin du bureau. C'est aux éditions Jean Jaurès et édité par la fondation Jean Jaurès. Pardon, on va continuer à travailler évidemment puisque c'est Happy Boulot, le mag, on va parler santé mentale.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, Business Case.
Le burn-out, sujet éminemment important dans la vie de bureau. On va en parler ensemble avec Astrid Le Fur, experte en prévention et accompagnement du burn-out et auteur du blog partagetonburnout.fr. Vous êtes focalisée sur cette question du burn-out. Il y avait un marché spécifique sur cette question-là.
Alors la question pour moi, c'était pas de savoir s'il y avait un marché, mais est-ce qu'il y avait un besoin? Et donc en l'occurrence,
c'est à peu près la même chose.
Il y avait vraiment un manque pour les personnes à qui ça arrive, qui vivent un burn-out, pour trouver de l'information claire, savoir ce que c'est vraiment, parce qu'on entend beaucoup le mot, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière, et pour savoir comment rebondir quand ça nous arrive.
On entend, je fais un burn-out pendant une heure, je suis débordée, je suis en burn-out. C'est une notion un peu plus précise que ça. Le burn-out, c'est quoi?
Effectivement, le burn-out, c'est pas une fatigue passagère. C'est pas non plus une excuse de feignant pour rien faire ou un effet de mode, j'ai pu entendre ça. C'est un syndrome, c'est un ensemble de symptômes physiologiques, psychologiques et émotionnels qui sont causés par le stress chronique au travail. Donc c'est une charge de stress qui est trop importante, trop longtemps. Ça se fait dans la durée, vous avez dit une heure, ça ne peut pas être sur une heure, ça dure des mois ou des années de tension, de stress et ça aboutit à l'épuisement total des ressources de la personne. Pour la personne qui le vit, c'est son corps qui se détraque d'un coup, sans qu'elle comprenne pourquoi. Le corps lâche, la tête veut continuer à aller au travail, mais le corps ne peut plus.
Donc il y a des signaux faibles du corps, j'imagine, à ressentir quand on arrive jusqu'au burn-out total. Quoi. C'est quoi ces signaux?
Donc il y a des signes qui vont être physiologiques, comme vous l'avez dit, et qui vont être aussi comportementaux. Donc les signes physiologiques, on va retrouver tous les signes de stress et tous les symptômes. Je vous ai dit, c'est comme le corps qui se détraque. Donc la personne va avoir des douleurs, peut-être mal au dos, peut-être elle va avoir des migraines quand elle rentre le soir, par exemple, chez elle. Elle va aussi avoir peut-être des troubles de la vue, des troubles cardiaques. Souvent, il y a le cœur qui s'emballe la nuit, sans qu'on comprenne pourquoi. Donc, c'est tout un tas de troubles. On les a pas tous, mais c'est une multitude qui fait que la personne se dit, c'est bizarre. D'habitude, je suis pas malade. Et là, il y a tout qui part en vrille. Ça peut être aussi une multitude de maladies virales, les unes après les autres, puisque l'immunité est baissée quand on est en état de stress chronique. Donc, ça, c'est physiologique. Et comportementaux, la personne va être plus irritable, plus colérique, ou va avoir tendance à s'isoler, à se retirer du groupe. Ça fait partie de symptômes comportementaux qu'on peut voir. On peut voir aussi des erreurs à répétition. La personne qui se trompe de carburant dans sa voiture, qui se trompe de rame de métro pour aller au travail, par exemple.
Ça peut arriver sans être en burn-out, hein, de se tromper de rame de métro quand on est un petit peu fatigué. Du coup, on a l'impression que quand on est dans cette situation-là, on doit s'arrêter totalement d'un coup. On peut pas juste ralentir.
Alors, c'est une très bonne question que vous me posez. Quand on a atteint l'état de burn-out où on a des symptômes physiologiques, physiques, comme je vous en ai parlé, vraiment la meilleure chose à faire, c'est de supprimer toutes les sources de stress. Donc c'est pour ça que l'arrêt de travail est souvent le premier outil qui est utilisé par les médecins pour arrêter ces sources de stress et permettre à la personne de récupérer, puisque comme je vous l'ai dit, ça va durer des mois, ce stress chronique, et donc le besoin de récupération, ben, il va être long, et souvent il est de plusieurs semaines.
Sauf qu'on passe du tout ou rien. C'est-à-dire que vous êtes face à des gens qui en fait en font trop, mettent leur corps dans une situation pas possible, et puis paf, on s'arrête.
C'est ça. Et souvent, d'ailleurs, pour les collègues, c'est une chaise qui est laissée vide sans qu'on comprenne pourquoi. Et souvent, parce que ce sont des gens qui vont en faire beaucoup, qui vont beaucoup se donner, les gens autour ne vont pas comprendre, vont se dire mais pourquoi lui, pourquoi elle? Je pensais pas que ça pourrait arriver à cette personne-là. Parce qu'on a tendance à penser que c'est une maladie de faible. Mmh. C'est les personnes les plus faibles qui vont céder. Or, ce sont les forts, ce sont ceux qui ne s'écoutent pas et qui vont au bout de leurs limites, qui sont les premières personnes à risque de burn-out.
Donc on s'arrête souvent de travailler, on est suivi, etc. et on revient.
Oui, l'idée c'est de revenir au travail, la vie ne s'arrête pas là, bien heureusement. D'ailleurs, moi ce que je dis aux personnes, c'est que c'est vraiment l'opportunité de transformer sa relation au travail, de le voir différemment. Donc préparer son retour au travail, c'est vraiment important, parce qu'il y a des risques de rechute si on ne sait pas poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui fait dans notre relation au travail qui fait qu'on s'est épuisé? Et qu'est-ce qu'il y a dans notre environnement de travail qui a causé cet état de stress chronique? Parce que si les sources de stress sont toujours là, il y a de grandes chances que la personne s'épuise de nouveau au travail.
Le problème, c'est de réussir à identifier qu'est-ce qui est un bon stress et un mauvais stress. Parce que le stress au travail, on le connaît tous, et tous les workaholics ne sont pas forcément destinés à faire un burn-out.
Alors, c'est une bonne question, cette idée du bon stress et du mauvais stress. Moi, je dis qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais stress. Il y a le stress qui est une réponse d'adaptation à une situation qui nous fait peur ou qui est stressante. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au début du stress, on va être plein d'hormones. Et c'est souvent ça qu'on appelle le bon stress, puisque on va se dire, c'est la pression qui nous permet d'avoir toutes nos facultés pour bien répondre aux questions, par exemple, si on est dans une interview comme là, ou pour réagir face à un besoin. Par contre, en fait, cette étape, c'est pas une histoire de bon stress ou de mauvais stress, ce n'est que le début d'une étape de stress chronique, et c'est quand il dure dans la durée, quand les personnes maintiennent ce stress sur plusieurs mois, plusieurs années, mais c'est le même stress, qu'elles finissent par s'épuiser.
Le stress, il faut que ça s'arrête à un moment donné.
Exactement.
On ne peut pas le laisser continuer, être en stress pendant plusieurs mois.
Exactement. Et d'ailleurs, quand vous dites ça, la vraie vie, elle n'est pas faite sans d'absence de stress, parce que parfois, les gens pensent que c'est l'absence de stress la solution. Mais non, la vie, elle est faite de haut et de bas. Par contre, il
juste
faut qu'il y ait des bas aussi.
Exactement. À un certain moment. Merci beaucoup, Astrid Le Fur, d'être venue nous voir, experte en prévention et accompagnement du burn-out, auteur du blog partagetonburnout.fr. C'est la fin d'Happy Boulot, le mag. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et à la semaine prochaine.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.